locataire oriental. J'ai refusé totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Parole aux auditeurs. À moins d'une semaine de la rentrée parlementaire, les deux présidents des deux chambres du Parlement congolais sont visés par des pétitions initiées par leurs pairs. Si pour le Sénat, les pétitionnaires revendiquent déjà plus de 70 signatures contre son président Jean-Michel Samalou Kondé, à l'Assemblée nationale, ce sont plus de 100 signatures qui seraient collectées en quelques jours contre le président Vital Kamerhe. Il est reproché à Samalou Kondé notamment l'inertie chronique du bureau. Les pétitionnaires l'accusent aussi d'étouffer l'élan des contrôles parlementaires, d'occulter les débats et de se perdre dans une opacité budgétaire jugée insoutenable. Du côté de la Chambre basse, les griefs formulés contre Vital Kamerhe sont entre autres une gestion opaque et centralisée, doublée d'un mépris des procédures. Les critiques portent autant sur l'organisation des plénières, où les lois seraient votées en bloc, en violation du règlement intérieur, que sur la gouvernance financière. Par ailleurs, les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, exhortent Vital Kamerhe et Samalou Kondé à assurer une rentrée parlementaire sereine. C'est ce qu'a rapporté le président de la Chambre basse et du Parlement à l'issue de la réunion interinstitutionnelle tenue ce lundi 8 septembre. Cette rentrée, a-t-il indiqué, devrait être axée sur les priorités nationales, c'est-à-dire celles du peuple. Que vous inspire cette situation? C'est autour de cette question que nous allons échanger pendant environ 55 minutes dans ces nouveaux numéros des Paroles aux auditeurs de ces jours. Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Paroles aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pa@radiocapi.net pour réagir dans les groupes WhatsApp des Paroles aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les 099 706 80 79. Debs Vita est à la mise en onde de ce magazine. Patrick Kiasongwa assure le live de cette émission et Julie Feza Bongonda en assure la réalisation et la coordination. À la présentation, Guy Maté.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de vous.
Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas bien travaillé.
Le réchauffement, dans ces pays, n'existait pas.
Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Encore une fois, bienvenue dans ces nouveaux numéros de Paroles aux auditeurs. Merci à tous ceux qui ont déjà réagi sur la page Facebook et aussi qui se sont inscrits pour réagir. Nous parlons aujourd'hui de la problématique des pétitions dans les deux chambres du Parlement congolais à moins d'une semaine de la rentrée parlementaire. Et pour échanger sur ces sujets, nous recevons ici au studio Christian Moleka. Il est analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Bonjour Christian Moleka.
Bonjour Guy Maté.
Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, quelle est votre analyse de ces pétitions qui interviennent carrément à la veille, n'est-ce pas, de la rentrée parlementaire?
Déjà, il faudrait inscrire ces pétitions à l'aune de comment a commencé la législature. Vous vous rappellerez sans doute qu'en début de législature, les deux aujourd'hui concernés par les pétitions ont bataillé dur pour occuper leur strapontin. Le président Vital Kamerhe avait réussi à l'époque à mettre en œuvre une plateforme qui s'appelait l'EPSR, avec certains alliés, dont notamment l'AAP et l'actuel ministre Jean-Lucien Boussa, pour contraindre en fait l'UDPS à accepter sa candidature à la tête du bureau. Et pour une première, on a eu une forme de primaire inhabituelle pour qu'enfin ils prennent le strapontin. Au niveau du Sénat, on a eu tous les débats autour des inquiétudes sur la santé du président et la possibilité même d'être remplacé. On a parlé à l'époque par son frère Roger Tshisekedi, puis enfin c'est Samalou Kondé qui va hériter. Et donc vous avez deux candidats qui au départ étaient déjà contestés et qui n'ont été acceptés probablement malgré eux et qui c'était sûr au premier faux pas quitteraient la barque. Deuxièmement, c'est le comportement des uns et des autres sur les questions politiques majeures. Vous prenez le début de mandat qui a commencé également sur le débat de la Constitution. On a reproché à Vital Kamerhe et, de ne pas se positionner clairement sur la question constitutionnelle, la réforme constitutionnelle ou le changement constitutionnel, et récemment sur les négociations, sur la conduite de la guerre. On lui a également reproché d'avoir une ligne personnelle qui s'éloignait quelque peu des positions du président de la République. Et donc tous ces éléments-là ont alimenté les tensions entre les différentes parties et renforcé la méfiance, notamment entre une certaine zone d'influence du président avec le président de l'Assemblée nationale, et pourrait conduire probablement à sa chute dans la saison à venir.
Et donc cela peut expliquer le fait que les deux initiateurs, n'est-ce pas, de ces deux pétitions soient tous cadres de l'UDPS.
Effectivement, l'UDPS n'a pas toujours digéré le fait qu'il ait manqué à la fois la tête du Sénat et de l'Assemblée nationale. C'est qu'ils ont voulu occuper dès le début. Ensuite, il y a une vraie méfiance qui n'a pas commencé aujourd'hui. Rappelez-vous l'histoire des 100 jours. Il y a toujours eu des méfiances entre, je dirais, une partie de l'influence des influents membres du sérail présidentiel avec Vital Kamerhe. Après le procès Jean Jour, son passage à l'ombre dans la prison, son retour à scène a toujours été mal perçu par certains. Et donc, ces guéguerres-là de factions autour du président pourront également être un élément déclencheur pour son départ.
Et donc, cela est un message, n'est-ce pas, du parti présidentiel, l'UDPS, selon lequel ces partis voudraient occuper les perchoirs des deux chambres du Parlement.
C'est déjà dans la gestion des ambitions à court terme pour l'UDPS, et y compris pour les alliés. On l'a vu depuis le début de mandat, la répartition des fonctions au sein de l'Union sacrée a posé beaucoup de problèmes, beaucoup de contestations. Même des alliés comme Bahati ont contesté la répartition des sièges, s'estimant quelque peu floué. Et donc il y a ces enjeux de contrôle de pouvoir à l'intérieur de la majorité présidentielle. Ensuite, il y a les égos, les ambitions, de la méfiance entre certains acteurs. Des prises de position sur des questions, je dirais, centrales, comme la Constitution, le dialogue. Le président Vital Kamerhe, sous le perchoir, a plus d'une fois rappelé la nécessité d'aller vers le dialogue, au moment où les caciques du pouvoir étaient vent debout contre toute initiative de dialogue. Donc il y a ces prises de position sur des questions aussi centrales, qu'ils ont également opposées. Et puis probablement, il y a également 2028 en ligne de mire, si l'UDPS veut rester au pouvoir. Et n'a pas besoin d'avoir des alliés encombrants qui peuvent revendiquer demain une forme de redevance également politique. Donc il y a tout ça, il y a le quotidien, il y a la prospective à venir, mais surtout il y a beaucoup de méfiance liée à des prises de position sur des questions centrales.
Christian Moleka, un autre élément qui semble interroger, c'est le fait que tous les acteurs principaux ici soient tous de la zone linguistique swahilophone. Et Mbindoulé, qui est député national, qui a initié la pétition contre le président Kamerhe, il est de l'Est. Idrissa Mangala, qui est sénateur, qui a initié la pétition contre Samalou Kondé, il est de l'Est lui aussi. Et les deux présidents, Samalou Kondé et Vital Kamerhe, sont tous, n'est-ce pas, de la partie Est du pays. Est-ce que c'est un fait anodin ou ça peut signifier quelque chose?
Bon, tout dépend de l'interprétation qu'on donnerait au fait. Il y a une dynamique politique interne à l'Union sacrée qui coïncide avec un environnement contextuel très particulier. C'est qu'à un moment donné où un discours se construit sur une forme de victimisation des leaders de l'Est, ou même forme de stigmatisation de la région de l'Est, ce genre d'initiatives vont conforter les discours de ceux qui pensent qu'il y a une stigmatisation politique. Même si les agendas peuvent à un moment donné se retrouver en convergence de manière factuelle. Mais ça va alimenter ce discours-là. Est-ce que lorsqu'on l'a fait, on l'a fait dans une logique rationnelle d'écarter les gens de l'Est, ou simplement c'est un choix politique qui n'a pas été pensé sous les conséquences dans le contexte dans lequel nous sommes, et qui pourra alimenter ce genre d'initiative. Moi, je penserais davantage sur cette, je dirais pas, le mot il serait fort, je ne dirais pas aveuglement, mais je dirais cette logique d'acharnement politique, parfois ne vous donne pas la distance pour voir les conséquences et les imbrications que de tels choix peuvent conduire dans un contexte de fragilité aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut déjà à ce stade entrevoir les conséquences de ces deux démarches, même si la démarche n'aboutissait pas à la déchéance de ces deux présidents? Mais est-ce que déjà le fait d'avoir enclenché ces mécanismes Est-ce que ça aura un impact, ça aura des conséquences sur la plateforme Union Sacrée?
Bien évidemment, il y a énormément de conséquences. La politique, c'est l'art de gérer les émotions. C'est comme ça qu'on aime bien dire en sciences politiques, parce qu'il faut gérer à la fois les colères, mais également les détentes et savoir dissiper les frustrations. Or, le pouvoir semble avoir sa tête talent à se créer des ennemis. Et maintenant, les ennemis en interne, parce que quand vous avez créé suffisamment des lignes de fracture, vous avez créé des ennemis en interne. Est-ce que ça ne va pas fragiliser ce bloc au moment où nous allons vers des enjeux plus important, à savoir la fin du mandat, probablement en 2028, un dialogue politique qui se dessine, et plutôt que d'organiser les forces, ça va davantage fragiliser la famille présidentielle du président. C'est peut-être pour ça que hier, le président convoquait la rencontre internationale et tentait de calmer un peu le jeu, parce que ça va davantage fragiliser sa famille politique et alimenter peut-être l'opposition. Et pourquoi pas, certains pourront rejoindre l'opposition par frustration.
Et justement, le fait que le chef de l'État réunit ces deux présidents et leur exhorte, n'est-ce pas, d'assurer une rentrée parlementaire sereine, peut signifier quoi?
Deux choses. Soit une volonté d'accalmie, c'est-à-dire qu'on tempère les choses. Soit un jeu de dupe où le président va se distancier en disant « ben, je ne suis pas concerné par le jeu au niveau parlementaire, au nom de ses personnes de pouvoir ». Et laisser les élus continuer à jouer ce rôle-là déstabilisant dont il va se détacher.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Capi. Vous suivez en ce moment votre magazine Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de la problématique des pétitions dans les deux chambres du Parlement congolais à moins d'une semaine de la rentrée parlementaire. Et on en parle avec, comme vous l'avez compris, avec notre invité Christian Moleka, qui est analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Si vous voulez réagir, vous pouvez appeler au 099-706-80-79.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous allons à présent ouvrir les standards. J'espère que nous avons déjà quelques... Voilà, je ne sais pas si on a déjà... Est-ce que Julie Feza est là? On a déjà quelques auditeurs? Voilà, nous avons déjà quelques auditeurs qui sont en train de vouloir donner leur point de vue. Nous avons en premier notre ami Franck qui nous appelle depuis Vienne. Franck, bonjour.
Bonjour, monsieur Guy Maté, bonjour à l'invité, bonjour à votre studio.
On vous écoute, Franck.
Oui, merci beaucoup. Si nous devons revoir tout ce qui se passe au niveau de nos deux chambres parlementaires, moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. Ça ne peut que confirmer tout ce qu'on a souvent constaté sur le comportement de nos hommes politiques. Parce que dans la plupart des cas, nous savons tous que la politique est faite sur base de certaines stratégies et calculs, mais si toutes ces stratégies ne profitent pas pour le bien-être de la population, c'est là où ça laisse à désirer. Et ce qui est encore curieux, c'est comme monsieur l'invité venait de le dire, il y a des dispositions qui devaient déjà se prendre en amont pour chercher à savoir à qui on devait vraiment faire confiance pour confier certaines tâches. Mais seulement chez nous, la politique n'est faite que sur des calculs, poids politique. Il faut chercher à placer tel qui répondra par rapport à tel désidérata de tel. Et tout cela est en train d'être pris en compte parce qu'on s'approche plus vers la fin du mandat. Il y a des calculs, il y avait des suppositions du changement de la Constitution, il y a des frustrations même au sein de l'Union sacrée, et tout cela c'est de la politique à la congolaise. Mais la question que nous devons nous poser, c'est de savoir tout cela profite à quoi au bien du peuple. Si on fait cette politique seulement pour changer de carte, pour chercher à placer tel qui répondrait au désidérata de tel. Mais si les préoccupations même de la population ne sont pas prises en considération, on fait cette politique pour qui et pourquoi? C'est comme ça qu'on a toujours exigé à ce qu'on repense la conception même de la politique chez nous, et on ne peut pas repenser la conception de la politique sans repenser les conditionnements moraux et mentaux avec lesquels cette politique doit encore être faites quoi. Sinon, on serait là en train de vivre les mêmes choses chaque année, à chaque législature. Ce sont les mêmes débats, les mêmes problèmes, et on se rend compte que qu'en définitive, on ne ferait que du surplace, parce qu'on ne peut pas, il y a moins de 3 ans, voter massivement pour tel et tel, et après on se rend compte que ils n'étaient pas des candidats appropriés pour de tels postes. Alors on doit aussi se demander sur le vrai sens de la liberté de nos députés. Ils votent vraiment sur base de leurs convictions citoyennes ou c'est seulement sur base des dictats, des orientations qui leur viennent de leurs divers états-majors politiques. Je crois m'arrêter là.
Merci beaucoup, Franck. Je rappelle que vous vous appelez depuis la ville de Vienne. Il y a aussi Amos Bissimoua qui nous appelle depuis la ville de Bukavu au sud Kivu. Amos Bissimoua, bonjour.
Amos. Bonjour, cher Guy Maté. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Bonjour à l'invité.
Bonjour, Amos.
On vous écoute, Amos. On vous écoute.
Très bien. En fait, nous tous nous suivons avec attention soutenue les débats au niveau des deux chambres par rapport à la destitution des présidents de ces deux chambres. Mais la population lambda se pose mille et une questions. Est-ce que nos dirigeants, nos représentants réfléchissent la souffrance du peuple congolais où ils sont dans leur business? Parce qu'on ne comprend plus rien. Et c'est comme qui dirait, Kinshasa devrait déjà sacrifier l'Est de la République. C'est pourquoi Kinshasa est dans autre chose. Il est en train de s'embrouiller, oubliant la situation qui se passe à l'Est. Est-ce qu'aujourd'hui, tout en ne soutenant pas ce qui se passe au niveau de ces deux chambres par rapport à leurs prestations, est-ce que réellement c'est ces motions-là qui intéressent les Congolais ou voir comment mettre fin à la guerre qui fait souffrir la population de l'Est? Parce que si on essaie d'analyser, avant qu'on entre en vacances parlementaires, il y avait déjà ce bruit. On a vu les gens de l'IMETE en train de quitter dans des raisons sociaux. Vital Kamerhe n'est plus dans la logique du chef de l'État. Il faut qu'on se débarrasse de tout ça. Avec Sama Lukonde, on se souvient de la démarche qu'il a entreprise par rapport à la levée des immunités de l'ancien chef de l'État. Tout ça, on a suivi et on a dit que l'argent aurait circulé pour ça. Mais quelques mois après, avant qu'il y ait rentré parlementaire de ce 15 septembre que nous tous nous attendons, il y a déjà ce genre de démarche. On se pose la question, pourquoi on veut gérer la République par des dictats, au nom des intérêts égoïstes, au nom de la géopolitique, au nom du tribalisme. Mais j'ai le sens de le dire, la RDC ne sera forte que dans son unité. Pour tous les Congolais, de tous les quatre coins, y compris les centres, se réunissent pour le bien-être de notre pays,
merci,
pour le bien-être du Congo. Mais tant que nous serons en train de réfléchir politique, on sera en train de réfléchir tribalisme. Ce pays aura toujours des disputes. Et je voudrais appeler nos députés à voir le peuple qui a souffert. On parle que non, ils regrettent du fait que leurs émoluments ont été réduits à la...
Allô, Amos Bissimoua? Voilà, apparemment on l'a perdu, mais on a quand même compris l'essentiel de son message. Il y a aussi Jérémy Mwamba qui nous appelle depuis la ville de Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Jérémy Mwamba, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour également à l'invité.
Bonjour.
Nous, il fallait s'y attendre à ce qui se passe aujourd'hui parce que nous sommes habitués à vivre une scène de théâtralisation dans notre pays parce que et il faut voir tous les deux pôles, voir lorsque ça blesse ici, on essaye de contourner la situation pour voir dans quelle mesure sortir de l'issue. Alors c'est ainsi que moi je me dis que ce qui se passe dans l'hémicycle, ça peut en même temps causer beaucoup de situations, surtout pour ceux qui œuvrent pour le moment, ça veut dire ceux qui sont au pouvoir. Parce que moi je me dis que pour arriver à voir la déstabilisation d'un pays, tout part des institutions qui sont déjà établies. Lorsqu'on a des institutions fortes dans un pays, et le pays décolle. Regardez, aujourd'hui, nous sommes à 2 ans des élections à venir. C'est le moment où L'unité devrait se resserrer au niveau d'ailleurs de ceux qui gouvernent, y compris les chefs de l'État dans cette matière. Parce que moi je me dis, si aujourd'hui la chambre basse tombe, si aujourd'hui la chambre haute tombe, les deux présidents tombent, moi je me dis que ce serait l'hécatombe peut-être pour les dirigeants d'aujourd'hui. Et je me dis que ça peut en même temps profiter aux autres. Je me dis que maintenant, qu'est-ce qu'il faut concrètement? Si les choses ne marchent pas, mais je pense que c'était le moment de pouvoir choisir la voie du dialogue, peut-être pour amener notre pays sur le bon rail. Il y a la guerre à l'Est, il y a la guerre dans les institutions. Alors, comment nous allons nous en sortir? C'est en même temps un coup de frein pour notre économie, c'est en même temps un coup de frein sur tout ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a une crise institutionnelle dans la province du Haut-Katanga où je me retrouve. Où est le gouverneur? Qu'est-ce qui se passe à la mairie? Mais tout ça, c'est comme ça que les institutions tombent. Et ça peut fragiliser complètement le pays à travers les institutions. Pour voir un pays décoller, il faut que les institutions soient renforcées autour du chef de l'État. C'est ça le problème.
Merci.
Mais si on n'arrive pas à résoudre ce problème, ce qui veut dire que nous allons reculer et rien ne peut marcher. C'est alors que je voudrais dire ceci. Mais ceux qui ont créé la pétition, il faut qu'ils revoient un peu, dans la mesure du possible, cette situation, pour que réellement la voie du dialogue soit concrétisée, pour que réellement le pays revienne sur le bon rail. Parce que moi, je me dis, ce qui se passe aujourd'hui, ça aura des répercussions dans les temps à venir.
Merci, vous l'avez déjà
dit. Et le seul redevable qui rendra compte, vous voyez que c'est le chef de l'État lui-même.
Merci, on a compris votre message. Ouais. Julien Bompongo, depuis Kinshasa. Julien Bompongo, bonjour.
Merci à l'invité et à de nombreux auditeurs de votre chaîne, de notre chaîne pour le pays. En fait, moi, je voudrais d'abord dire que cette rentrée parlementaire s'annonce agitée, mouvementée et agitée. Et je dirais que la rentrée qui se pointe à l'horizon promet même un protocole institutionnel. Alors que normalement, nos yeux devaient rester rivés vers l'urgence sécuritaire. Certes, les griefs portés contre les deux présidents de notre chambre parlementaire, qu'ils soient exacts ou exagérés, traduisent moins une quête de transparence qu'un appétit de positionnement. Nous savons très bien les pensées sont arrivent, hein. Comme Maurice Duverger d'ailleurs, il dit le Parlement est censé être le lieu du contrôle, non celui du marchandage permanent. Or, à y voir de près, députés et sénateurs délaissaient leurs bases électorales pour signer des pétitions en pleine vacances parlementaires. On croirait assister à une loterie politique où chacun mise non pas pour l'intérêt général, mais pour la préservation de leurs propres privilèges.
Merci.
En tout cas, ce spectacle est désolant. Et nous devons d'abord préserver la solidité des institutions et un acquis démocratique. Mais lorsque on se livre dans des exercices qui ne favorisent pas même le faire plein politique, eh bien, il est difficile de penser d'abord à l'intérêt général et c'est bien dommage. L'Union sacrée doit vraiment trouver. Oui, je chute par là en disant que l'Union sacrée doit trouver quelques mécanismes favorisants la critique démocratique en son sein et aussi pour la préservation des institutions au lieu de nous créer une crise institutionnelle virulente. Merci.
Merci à vous, Junior Bompongo. Christian Moleka, vous allez réagir à ces quelques réactions. Il y a Franck de Vienne, il y a Amos Bissimwa depuis Bukavu Sud Kivu, Jérémy Mwamba depuis Lubumbashi dans le Haut-Katanga, et puis Junior Bompongo depuis la ville de Kinshasa. Christian Moleka.
Mais je crois qu'ils ont tous dit la même chose. Ils reviennent sur le fait qu'il y a une vraie prédominance du jeu politique, du politicien, c'est-à-dire manœuvre, calcul politique et intérêt partisan sur les l'intérêt général. C'est une, je dirais, un facteur structurant du jeu politique congolais. Nous avons davantage des politiciens que des hommes d'État, que des hommes politiques au sens classique du terme. Et donc on a cette dominance du jeu des acteurs, de la logique des acteurs, de positionnement, du jeu opportuniste, de calcul, des ambitions, que des questions de profondeur. Nous avons quand même un Parlement qui devait ratifier l'accord de Washington, qui ne l'a pas encore fait. Un Parlement qui doit voter la loi de programmation militaire qui est arrivée à son terme en 2025. Un Parlement qui doit voter le budget. Un Parlement qui doit réévaluer l'état de siège.
C'est tout que la rentrée, en fait, la session de septembre, c'est une session essentiellement budgétaire.
Effectivement, qui doit réévaluer l'état de siège. Beaucoup d'initiatives diplomatiques qui ont été prises pendant l'intercession. Doha, Washington, sous lesquels on attend le Parlement s'est prononcé. Mais voyez-vous, on commence sur des questions des périphéries. Ça, c'est malheureusement lié à la fois à notre façon de faire de la politique, à notre façon de percevoir la politique et à la pratique de la politique au Congo, qui reste une pratique basée sur les manœuvres, les intrigues, les ambitions, les calculs, qui est sous des questions des fonds et l'intérêt général.
Franck Devienne pose la question de savoir, il dit, à quoi profite cette situation, et moi aussi j'ajoute, à qui profite cette situation?
On pense que ça profite, certains pensent que ça profiterait au président d'avoir des institutions parlementaires fragilisées, parce qu'on aurait une forme d'alignement du Parlement sur les positions du président. Mais je crois que à long terme, ça lui sera défavorable. Vouloir faire du président la seule institution forte et fragiliser tous les autres ne l'aide pas. Dans une démocratie, on doit équilibrer à travers les institutions qui, de manière horizontale, s'autocontrôle, et ça sent un bénéfice. Donc, que l'on ait un président du Parlement qui tient une ligne, qui se distancie plus ou moins du président, ce n'est pas nouveau. Je rappelle quand même qu'à l'époque du Kabila, il y avait à la tête du Sénat un Ken Gwadondo qui n'était pas désiré, qui est passé par la voie des urnes malgré la volonté du PPRD à l'époque de gagner ce poste-là, et qui a passé pratiquement
environ 10 ans.
10 ans alors qu'il occupait une position de dauphin constitutionnel dans un environnement également de méfiance, un peu comme aujourd'hui, mais dans une forme de finesse qui a maintenu l'équilibre malgré l'opposition. Donc il est possible de créer de la finesse, du tact pour gérer les contradictions au niveau institutionnel. Mais c'est de la pensée politique, c'est de l'action politique. Si on ne pense pas avec finesse, si on pense avec tout réglé par l'agressivité, par la force et la brutalité, on aura des institutions assez fragiles et malheureusement qui ne serviront pas à asseoir la gouvernance.
Christian Moleka, ça paraît quand même paradoxal lorsqu'on voit les chefs de l'État lui-même s'impliquer, n'est-ce pas, dans cette démarche en demandant aux deux présidents des chambres du Parlement d'assurer une rentrée parlementaire apaisée. Et pendant que c'est des cadres de l'UDPS, donc de son parti politique, qui sont à la base de ces pétitions, lorsqu'on essaie d'analyser la situation, on s'est dit, ces cadres ne peuvent pas prendre une initiative de façon unilatérale. Certainement qu'il y a quelqu'un qui est en train de tirer les ficelles, et tout de suite on verrait peut-être les chefs de l'État. Alors comment vous comprendrez que le même chef de l'État puisse, n'est-ce pas, pousser ces gens, n'est-ce pas, à déstabiliser les deux présidents des chambres du Parlement, et pendant que lui-même demande aux deux présidents d'assurer une rentrée parlementaire. Comment vous expliquez cela? Évidemment, on ne dit pas que c'est lui qui a traité les présidents, mais quand on analyse les faits, on peut se dire, est-ce que des gens dans un parti comme celui-là peuvent prendre une telle initiative sans avoir l'aval de l'autorité morale? Voilà.
Bon, le président semble adopter depuis un certain temps une forme de philosophie politique qui est celle du non-arbitrage. De ne pas jouer l'arbitre, de laisser les autres se battre, que ce soit au sein de l'UDPS, on a les deux courants qui se battent, il ne fait pas l'arbitrage. Forcément, là également, il va éviter de se positionner en arbitre, et donc il va jouer le ponce pilote en disant, je ne suis au courant de rien, c'est un jeu au niveau du Parlement, réglez ça à votre niveau.
C'est les garants du bon fonctionnement des institutions.
C'est une approche que...
Il est le garant du bon fonctionnement des institutions, n'est-ce pas?
C'est une approche qu'il développe. La non-décision est une façon de décider aussi. C'est une approche politique, la non-décision, mais qui est une façon de décider, à savoir, je ne décide pas, c'est à votre niveau que vous décidez, assumez, et moi je me contenterai de suivre la décision qui se prendrait, pourtant c'est une décision politique. Donc c'est une stratégie qu'il semble construire depuis un certain temps, peut-être en refusant de prendre position sur les questions qui peuvent cliver au niveau de sa famille politique, mais la non-décision est une décision.
La non-décision est une décision, mais qu'il faut bien cerner, n'est-ce pas?
Effectivement.
Et on nous apprend qu'il y a aussi Blaise Kangela qui appelle depuis la ville de Kindu dans les Maniema. Blaise Kangela, vous êtes là?
Oui, je suis là. Bonjour à Radio Kapi.
Bonjour, bonjour Blaise.
À tout le monde. Bonjour à l'invité.
Bonjour.
Christian Mouneka.
Bonjour. Allez-y.
Bon. Merci. Merci pour la parole. Je voudrais saluer une fois de plus l'invité. Je voudrais profiter de vous remercier par rapport à l'occasion que vous nous donnez. Moi, je pense que pour rester tout droit au but par rapport à la thématique, je voudrais ici pour signifier que avec déjà l'initiative de CDT, que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale, vous allez comprendre avec nous que l'Union sacrée est en train déjà de se diriger vers la décadence, parce que non seulement les pétitions sont initiées cumulativement, mais elles sont aussi faites concomitamment. Ce qui prouverait en suffisance que lorsqu'on analyse dans un holisme politologique, vous allez comprendre avec nous qu'il s'agirait là d'un règlement des comptes. Je pense que mes prédécesseurs venaient de le dire. Vous allez comprendre que les moments dont l'initiative vient d'être prise n'était pas propice. C'est vrai, la pétition constitue l'un des moyens ou des mécanismes de contrôle parlementaire. Mais la manière d'exercer cette pétition, la manière d'initier cette pétition est en train de sembler chez des analystes comme s'il s'agirait là d'un règlement de compte contre certains de ceux-là qui ont géré la chose publique en dehors de la philosophie ethnico-tribale. Parce que là, je suis en train de vous dire que quand vous regardez le président Samalou Kondé, le président du Sénat, quand vous regardez le président Vital Kamerhe, tous des Baswahili, alors l'initiation de cette pétition au stade actuel ici, stade dans lequel le pays est encore confronté dans une crise sécuritaire, crise politique et crise économique même. Moi, je suis en train de dire que le pays est en train maintenant de se plonger dans une crise, dans la crise. Donc, une spirale de crise dans laquelle nous ne serons plus en mesure de nous en sortir. Surtout que la guerre à l'Est est en train déjà de ravager le pays, d'occuper plusieurs territoires, mais au stade actuel, se mettre tout simplement à faire une chasse à l'homme sur les postes, vous allez comprendre que le pays finira à vivre et la crise de l'État, et la crise du gouvernement, et la crise même de légitimité, puisque ça existe, et voire même la crise des régimes. Et toutes ces crises-là auront comme conséquence, il y aura une dose de la conjoncture de confiance, parce qu'à un certain moment, le peuple doit se détacher, doit s'éloigner des dirigeants politiques, et là, eh ben, le pays risquera alors d'assister ou de vivre dans un climat de chaos total. Donc, je suis en train de vouloir féliciter l'initiative, mais décourager les modes opératoires, puisque la pétition, c'est un mécanisme constitutionnellement reconnu. Mais la manière de l'exercer, c'est ce qui prouve en suffisance que nos amis, nos pétitionnaires, nos élus parlementaires, qu'ils soient sénateurs ou députés, n'ont pas su lire les signes du temps. Et au stade actuel, le pays va demeurer dans une crise totale dont l'issue sera
inexplicable.
Voilà un peu la contribution que je voudrais émettre par rapport à cette thématique.
Merci à vous, Blaise, depuis la ville de Kindu, dans les Maniema. Nous allons essayer de lire, n'est-ce pas, les condensés des réactions. Les réactions d'auditeurs recueillies à propos des pétitions contre le président des deux chambres du Parlement congolais illustrent une diversité d'opinions entre inquiétude, analyse politique et espoir démocratique. Les réactions favorables soulignent que les pétitions sont un exercice normal et légitime des contrôles parlementaires traduisant une vitalité démocratique et une prise de conscience pour plus de transparence et responsabilité. Elles appellent aussi à la cohésion et à la défense de l'intégrité, de l'intérêt général au-delà des intérêts personnels. Il y a ceux qui soutiennent cette position, c'est Melchi Emwenya, Luc Kalapa, Baraka Godefroy, Blaise Kangela Ngumbi, Camille Twenge, Denis, Christian Kassessé, Destin, DJ Trésor. Les réactions défavorables, ces réactions dénoncent une crise profonde du leadership politique, un montage politique aux dépens des priorités nationales, des dysfonctionnements graves du Parlement et des institutions, et une instabilité qui fragilise les pays déjà en proie à de nombreux défis sécuritaires et sociaux. Ceux qui soutiennent cette position, c'est Bangé Ndambanga, Christian, Steve Baoguere, Ismaël Mupoy, Elias Osamalo, Blaise Saïdi Atoubou, Anatole Mouecherwa, Emma Kabemba, Docteur Batungi Batundi, Angi Vicar de Goma, je pense que je ne me suis pas trompé, Kaïté Kalunga Prosper, Georges Kilanga Langa, Nathan Kabassele, Jean Kassongo, Eminent Mwamba depuis Bukavu, Omar Kassiro, Dieu merci Kisembo Lodja, depuis Lodja, Fidèle de la Nature, Emmanuel Kabemba, Kabila, Gaël Fiston Piana, Maître Yves, voilà, ils sont nombreux, Maître Yves Mouyaya, Gédéon Chilumba, Junior Mopongo, Ignace de Colosi, Freddy Mubenga, Peter Maboudi. Alors, les réactions nettes, les avis nettes analysent les causes et facteurs des pétitions, reconnaissant la nécessité du contrôle parlementaire tout en questionnant les motivations des pétitionnaires et les risques, n'est-ce pas, d'une paralysie institutionnelle dans un contexte difficile. Là, ceux qui sont nettes, donc, à travers cette réaction, il y a Luc Kalapa, Christian Kassessé, Camille Twenge Denis. En conclusion, cette divergence des voix reflète une maturité démocratique nécessaire pour surmonter la crise. En fait, c'est une question, hein, si elle reflète effectivement une maturité démocratique nécessaire pour surmonter la crise institutionnelle, ou bien annonce-t-elle un risque d'instabilité accrue au sein des institutions congolaises? Christian Moleka.
Moi, je crois que ça reflète ce que nous sommes, une société fractionnée. Les Congolais ont de moins en moins des éléments, fédérateurs sur lesquels ils sont d'accord. Il y a de moins en moins des points sur lesquels nous parlons de manière commune. Il y a, c'est pour moi le reflet de cette société fractionnée que nous avons construite, où à chaque question il y a des prises de position totalement opposées et peu de consensus ou de compromis au niveau national.
Alors Amos Bissimwa de Bukavu, il s'est posé la question de savoir si ceux qui sont à la base de ce genre de démarches tiennent compte de la souffrance, n'est-ce pas, du peuple congolais, en évoquant plus particulièrement cette guerre, n'est-ce pas, qui affecte la partie est de la RDC.
Ah, la perception politique, elle est toute différente, hein. Les acteurs politiques sont dans un jeu. Le jeu politique, il repose sur la froideur et la distance. Et il a sa propre logique qui n'est pas forcément la logique de la population. C'est à la population de comprendre qu'ils ont également un rôle à jouer dans tout ce qui se passe, qu'ils ne sont pas simples spectateurs. La participation citoyenne ne se résume pas à voter tous les 5 ans. Il y a d'autres façons de s'exprimer également. Et c'est à eux de jouer leur rôle, de ne pas laisser le jeu politique uniquement pris en otage par les acteurs qui, dans leur calcul froid, joueront les intérêts partisans.
Voilà, Jérémy Mwamba de Lubumbashi, lui, il a prôné, n'est-ce pas, qu'on puisse recourir au dialogue. Vous pensez que maintenant, si on conseille, n'est-ce pas, aux pétitionnaires avec les personnalités qui sont visées de dialoguer, ça peut sauver les meubles?
Il faut quand même rappeler que l'Union Sacrée sort d'un congrès. Ils ont clôturé il y a peu un congrès, ça veut dire qu'ils ont levé les options, c'est la conduite de leur plateforme. S'il y a des pétitions qui découlent post-congrès, c'est-à-dire c'est une démarche politique pensée, et que cette démarche politique pensée est aujourd'hui en phase de mise en œuvre. Est-ce que le dialogue va résoudre les ambitions politiques? Je ne pense pas. Nous sommes dans la logique des manœuvres politiques qui dépassent les recherches de dialogue, mais qui sont dans la logique des calculs partisans. L'inconvénient, c'est que ça renforce le risque d'enquistement de l'Union Sacrée autour d'un pôle réduit et probablement de l'émergence d'autres lignes de fracture qui pourront conduire à des départs, peut-être pas directement, mais dans les années à venir à des départs. L'éviction de Vital Kamerhe en 2010 a créé l'UNC, donc rien ne laisse à penser qu'une nouvelle éviction ne conduise à une attitude politique agressive vis-à-vis du pouvoir politique aujourd'hui.
Vous voyez, Christian Moleka, vous voyez les pétitionnaires s'incruster dans cette démarche. Vous les voyez vraiment poursuivre leur démarche en dépit du fait que le chef de l'État a réuni les deux présidents des deux chambres du Parlement hier et leur a, n'est-ce pas, demandé d'assurer une rentrée parlementaire apaisée. Vous les voyez poursuivre leur démarche?
Oui, moi je crois, parce que ce qui aurait pu empêcher, ce serait par exemple que le parti politique UDPS, qui a un groupe parlementaire, un président de groupe parlementaire, se désolidarise. On n'a pas jusqu'à ce jour entendu UDPS se désolidariser des positions des députés. On n'a pas entendu les présidents des groupes parlementaires de l'Union Sacrée, c'est de désolidariser. Lorsqu'on parle de plus de 100 signatures des députés de l'Union Sacrée, ça veut dire c'est des députés qui viennent de toutes les formations politiques. L'Union Sacrée a également un secrétaire permanent qui s'appelle Mbata. On n'a pas entendu le secrétaire permanent se prononcer pour dire que nous, au niveau de l'Union Sacrée, nous soutenons notre ticket. Ce silence-là traduit soit l'embarras de ne pas mettre l'initiative, soit de manière tacite un accompagnement des initiatives.
Voilà, on va retourner à notre standard. Nous avons plusieurs personnes, n'est-ce pas, qui veulent intervenir. Prince Jourdain, depuis New York, aux États-Unis. Prince Jourdain, vous êtes là?
Oui, je suis là. Merci beaucoup pour la chance de m'exprimer. Excusez-moi, mon français est un peu boité.
Allez-y, on va comprendre.
Plus, anglophone.
Voilà, allez-y, on va
comprendre.
Alors,
j'ai une question à propos de la politique dans notre pays. Comment est-ce que les citoyens ne parlent pas du fait qu'il y a beaucoup de politiciens qui ont des doubles nationalités qui leur met illégal? Ils ne peuvent pas gouverner notre pays s'ils ont des doubles nationalités. Et alors, tous les accords diplomatiques qu'on fait dans les autres pays internationalement n'ont pas de valeur. Est-ce que vous pouvez parler sur ce point-là?
Oui, évidemment, ce n'est pas ça le sujet du jour, cher prince Jourdain depuis New York.
Oui, mais c'est grave.
C'est une question intéressante.
On est en train de massacrer nos mères, nos frères, nos pères à l'Est, et personne est comme fâché, personne ne parle de ça, et vous êtes en train de caresser ces politiciens avec double nationalité qui sont des ennemis de l'État du Congo?
C'est une question intéressante et même opportune. Hein. Donc, on va y revenir. Hein. On va concevoir une émission.
Et si vous ne le faites pas, alors vous aussi, vous êtes les ennemis de l'État. Vraiment, c'est
okay, on a compris, Prince Jourdain, depuis New York, que ce n'est pas ça, n'est-ce pas, le sujet du jour. Hein. On en parlera un jour, on vous invitera, n'est-ce pas, dans cette émission. C'était Prince Jourdain depuis New York, aux États-Unis. Voilà. Koudira Divin. Koudira Divin, bonjour.
Bonjour, parole aux auditeurs.
Bonjour, vous intervenez depuis Fizi, au sud Kivu, on vous écoute.
Oui, je suis Koudira Namegave Divin depuis Fizi, au sud Kivu. Nous continuons de suivre la comédie qui se passe dans les deux chambres du Parlement visant le président Vital Kamerhe et son frère du Sénat Saman Lukonde. Mais nous continuons à nous poser la question de savoir comment nous pouvons croire à ces députés massifs initiateurs de ces pétitions, quand depuis plus de 8 mois, Goma et Bukavu sont tombés entre les mains du réveil du M23. Aucune réaction de leur part. C'est toujours déjà des échauffourées à Uvira, entre les FARDC et la population civile qui revendiquent leurs droits de souveraineté. Aucune réaction de la part de nos soi-disant représentants du peuple. Je salue en passant nos parlementaires qui se sont sacrifiés corps et âme pour défendre la population du Sud Kivu. La personne de Albert Kaacha Fok Mike, le général William Yakutumba, Bisham Bouquet et les autres.
Merci beaucoup.
À cet instant précis, provoquer une crise institutionnelle, alors même que le pays traverse déjà une multiforme d'une ampleur majeure, relèverait d'une inconséquence particulière préoccupante. L'accumulation des crises ne sert à aucun cas contribuer à la paix, à la stabilité et à la cohésion nationale. Elle compromet au contraire le fonctionnement normal de l'État.
Merci beaucoup, Koudira. On a compris. Donc, on va y aller rapidement parce qu'on n'a plus assez de temps. Maître Patrick Odia depuis Lubumbashi. Maître Patrick Odia, bonjour.
Bonjour, Guy Maté, et bonjour,
Christian Moleka.
Christian Moleka également. Oui.
Bonjour, maître.
Je pense qu'il a été toujours à 98% vrai dans ses analyses également. Mais je le reproche ici d'être un peu plus politologique plutôt que juriste. Parce que ici, cette question, il faut également l'appréhender sous des aspects également, les points de vue politiques et les points de vue juridiques. Il est vrai que du point de vue politique, il y a une opportunité, il y a tout ce qu'on a évoqué également. Mais il faut également se poser la question sur les questions de fond également, lorsqu'on parle également en reproche au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, la violation intempestive des procédures également, même en matière de vote des lois également. Ça, c'est un fait sur lequel on devait également réfléchir. Et pour s'en convaincre, moi et Maître Jean-Claude, nous avons ici dénoncé la manière de conduire les procédures, de respecter les procédures visant dans le procès Moutam également, comment le vote a été fait à m'élever tout ça. Donc, autour de ces questions, je pense qu'il y a des questions profondes sur lesquelles on devait également et aussi réfléchir. Est-ce qu'il y a également les greffes sur lesquelles également portent les pétitionnaires ou les pétitions également, sont-ils également mauvais ou incorrects? C'est aussi la question profonde qu'il faut également se poser. Mais d'emblée, je voudrais également dire quelque chose, Guy Maté également. Disons également que tout ceci n'est que la conséquence du choix portant sur le poids politique. Voyez-vous? Non, on le met là-bas parce qu'il est mon allié, on le met là-bas parce qu'il est de la région de tel. Et pourtant, on devait laisser la démocratie réelle primer sur toute considération également partisane également, ou alliance politique, il peut également s'agir d'alliance politique ou alliance familiale. Merci. Également, comme on le voit.
Merci, merci beaucoup, Maître Patrick. Allez-y rapidement.
Je cite simplement, je pense qu'il y a lieu de laisser le député national exercer leur droit également, mais aussi également les sénateurs également, parce qu'il n'y a pas la vraie période sur laquelle on doit également reprocher telle ou telle sur une question portant sur la gouvernance, surtout la gouvernance financière également. Moi, je pense qu'il n'y a pas une opportunité. Il y a opportunité, mais seulement il faut être prudent sur les enjeux sécuritaires également qu'on a évoqués par-ci, par-là. Et là, nous interpellons également les chefs de l'État de ne pas intervenir, de laisser les députés et les sénateurs exercer leurs droits également, mais aussi pour permettre que la redevabilité et la transparence continuent. Mais si on le fait au nom d'une stabilité institutionnelle, soit-elle également, nous allons perdre une bonne gouvernance financière et tout ce que nous avons décrit également un peu.
Merci Patrick Odian. Je rappelle que vous appelez depuis vous intervenez depuis la ville de Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Il y a aussi Georges Kilangalanga depuis Bunia dans l'Ituri. Georges Kilangalanga, bonjour.
Oui, bonjour M. Marcel, bonjour au confrère Christian Molita. Bon, il y a beaucoup bonjour. De choses qui ont été dites, même si on a beaucoup de choses, je vais quand même essayer d'être bref.
Allez-y.
Et je pense que lorsque vous regardez les initiatives de ces démarches, il y a raison de penser à la carte à laquelle est en train de jouer l'IDPS. Soit l'IDPS est en train de jouer la carte et donc de faire tout pour mettre en place son plan de changement constitutionnel, soit l'IDPS est en train de faire tout pour émerger ses propres figures en vue des élections de 2028. Et moi, je pense que si vous analysez bien cette question, les autres ont parlé de l'opportunité et tout, je pense que ces démarches auront plus d'effets caustiques soit sur la coalition au pouvoir qui est l'Union sacrée, soit sur le fonctionnement ou l'efficacité institutionnelle, et même sur la cohésion nationale. Nous sommes dans un pays où on connaît la culture. Lorsqu'on touche Vital Kamerhe, c'est toute sa bande, tous ses acolytes qui sont derrière lui, qui s'acclament. Et je pense que c'est la gestion. On a une crise à l'IDPS, cette crise s'est transférée à l'Union sacrée. Aujourd'hui, cette crise va au niveau même institutionnel. Et je pense qu'on a tout intérêt à privilégier donc les intérêts collectifs de l'État au lieu de nous acharner sur des querelles politiques intestines qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général de la population.
Merci.
Je préfère m'arrêter là, même s'il y a beaucoup de choses à dire par rapport au temps qui nous reste.
Voilà. Christian Moleka, vous allez réagir à toutes ces réflexions. Blaise Kangela, Prince Jourdain qui a posé une question sur la double nationalité des dirigeants politiques. Évidemment, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y a Koudira de Fizi, Patrick Odia de Lubumbashi, et puis Georges Kilangalanga des petits Bounia dans l'Ituri. Vous avez la parole.
Ben, pour Prince, je dirais par exemple que, bon, on peut prendre le problème sur notre angle. C'est qu'il parle de l'implication des citoyens. Pourquoi les citoyens ne réagissent pas? Les citoyens ne réagissent qu'en termes de corps constitués, c'est-à-dire des corps intermédiaires qui sont soit la société civile, les mouvements citoyens, ainsi de suite. Or, nous sommes dans un contexte où la société civile s'est beaucoup fragilisée, a perdu en efficacité, est en renouvellement. Et donc, il manque aujourd'hui des leaders capables de porter les corps sociaux vers des formes de revendication. Donc, nous étions encore en recherche de ce visage de leadership qui permettrait de porter le corps social vers des formes d'expression plus participatives comme la contestation, la marche, ainsi de suite. Pour ce qui est
Vous avez suivi Patrick Odia qui pense que...
Je vais finir par lui, il y a notre ami Afizi qui a parlé,
et il
a raison de le signifier, que nous avons des institutions politiques, le Parlement particulièrement, qui a des priorités qui ne correspondent pas aux priorités des citoyens. Et malheureusement, ça va conforter le fossé de confiance entre les citoyens et les institutions politiques, parce que pour certains, les institutions parlementaires ne parlent pas des problèmes des citoyens. En sous-bas, on parle des salaires des députés, qui seraient plus ou moins réduits, et moins des problèmes sécuritaires. Ils parlent de Fizi, ils parlent de Goma, des Bukavu. Ces sentiments-là, cette perception-là d'avoir des politiques qui sont loin des réalités des populations, va se voir malheureusement conforté par ces genres de manœuvres politiciens. Et peut-être Maître Patrick à la fin, ouais, il présente les aspects juridiques, mais pour moi, ce sont des éléments périphériques d'enjeux politiques. L'habillage politique, c'est des enjeux, et puis il y a le jeu. Le jeu n'a de sens que si on saisit l'enjeu. Sans l'enjeu, le jeu ne vaut rien. Donc oui, il y a un jeu qui repose sur des arguments construits, mais il y a un enjeu qui est un enjeu politique. Et si on veut analyser, il faut aller vers le fond, à savoir l'enjeu, et pas ne rester coaché sous les éléments du jeu.
Et il souligne le fait que les députés, donc les pétitionnaires, sont dans leur rôle.
Bien évidemment, c'est ça le jeu. Donc c'est ça le jeu politique. Ils sont dans leur rôle, ils vont jouer le jeu, mais il y a un enjeu, l'enjeu il est politique. Il faut savoir saisir l'enjeu et ne pas rester focalisé sur le jeu des acteurs.
Voilà, nous sommes à la fin de l'émission. Christian Moleka, vous allez pouvoir, n'est-ce pas, conclure. Comment vous entrevoyez l'issue de cette ce qu'on peut déjà appeler des crises, hein, au sein du Parlement congolais?
Bon, pas avec beaucoup de joie. Ça veut dire qu'on aura à nouveau un Parlement qui va reprendre avec beaucoup de tension et qui pourra occulter les questions prioritaires. Des Parlements à nouveau instables comme on l'a vu en 2021 avec les renversements des majorités. Ensuite, il faudra gérer les ambitions des uns et des autres. Quand on aura fait partir Kamere, est-ce qu'on redonnera à l'UDPS le poste du président? Est-ce que ce sera l'UDPS El Kabouya? Est-ce que Chulumba il va rester comme premier vice-président, sachant que l'UDPS pourra prendre la présidence? Donc il y a tout ça qui nous va nous écarter des vraies préoccupations des Congolais. Et fort malheureusement, la pratique politique basée sur les manœuvres va dominer sur la politique, je dirais, globale.
Merci, c'est par là que nous terminons cette émission. Nous disons merci à vous, Christian Moleka, qui avait accepté, n'est-ce pas, de participer à cette émission. Vous êtes analyste politique, coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Et merci aussi à tous ceux qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Def Vita qui était la technique, à Patrick Kassongwa et Paul Baganyama qui ont assuré, n'est-ce pas, les lives de cette émission, à Julie Feza Bongonda qui a réalisé et coordonné cette émission sous la supervision de Jean-Marc Matouac. À la présentation, Guy Maté, merci une fois de plus et bon suite de programme sur la radio Okapi. On se retrouve demain avec un autre sujet.